Chapitre 64, les habitudes. Principes et habitudes, la parole de Dieu est suffisante pour éclairer les esprits les plus enténébrés et elle peut être comprise par tous ceux qui en ont le désir. Celle-ci abonde en principes généraux destinés à former de bonnes habitudes et les témoignages généraux et personnels ont pour but d'attirer l'attention spécialement sur ces principes. Comme un filet de fer, une fois qu'elle a été formée, une habitude est comparable à un filet de fer. Vous aurez beau lutter désespérément contre elle, vous ne vous en défrayez pas. Votre seul salut est de construire pour le présent et pour l'éternité. Conseil adressé aux jeunes, c'est un devoir pour tous d'observer des règles strictes concernant leurs habitudes de vie. Chers jeunes, cela est pour votre bien tant physiquement que moralement. Quand vous vous levez le matin, réfléchissez, dans la mesure du possible, au travail que vous avez à accomplir pendant la journée. Si nécessaire, ayez un petit carnet dans lequel vous noterez les choses qui doivent être faites, et fixez le moment où vous le ferez. Des habitudes régulières favorisent la santé, notre Dieu est un Dieu d'ordre, et il désire que ses enfants veuillent se mettre en ordre et se placer sous sa discipline. Ne vaudrait-il donc pas mieux rompre avec l'habitude qui consiste à prendre la nuit pour le jour et les heures fraîches du matin pour celles de la nuit? Si les jeunes voulaient cultiver des habitudes d'ordre et de régularité, ils amélioreraient leur santé, leur dynamisme, leur mémoire et leur caractère. Faire disparaître les causes de maladies, de bonnes habitudes, cultivées avec intelligence et persévérance, supprimeront les causes de maladies, et l'on n'aura pas besoin de recourir à des médicaments. Nombreux sont ceux qui se laissent aller peu à peu à leur désir contre nature, ce qui aboutit à un état de choses tout aussi peu naturel. Les dangers de l'intempérance, on peut obtenir une bonne santé grâce à de bonnes habitudes de vie, et l'on peut en retirer un intérêt, et même des intérêts multipliés. Mais ce capital, plus précieux que celui obtenu par un dépôt en banque, peut être sacrifié par l'intempérance dans le manger et le boire ou parce que les organes sont condamnés à s'étioler par l'inaction. Il nous faut renoncer à nos caprices favoris et surmonter notre paresse. L'avilissement des facultés, toute habitude qui ne favorise pas une action saine dans l'organisme humain ravale les facultés supérieures et nobles. Les mauvaises habitudes dans le manger et le boire conduisent à des erreurs en pensée et en acte. Vaincre les habitudes préétablies, dans de nombreux cas, les habitudes et les idées préétablies doivent être vaincues avant que l'on puisse progresser dans la vie religieuse. Il est difficile de se défaire des mauvaises habitudes, message adressé à un responsable, il vous sera difficile aujourd'hui d'opérer dans votre caractère les changements que Dieu vous demande de faire, parce que vous avez eu de la peine à faire preuve de ponctualité et de promptitude dans votre jeunesse. Une fois que le caractère a été formé, que les habitudes se sont implantées, que les facultés mentales et morales se sont affermies, il est particulièrement difficile de se débarrasser des mauvaises habitudes, de manière à agir avec promptitude. Vous devez apprécier la valeur du temps. Il n'est pas admissible que vous négligiez les tâches les plus importantes, si difficiles qu'elles soient, espérant ainsi vous en dispenser totalement ou en pensant qu'elles deviendront moins pénibles, tandis que vous occupez votre temps à des choses agréables, et qui ne vous coûtent pas vraiment. Vous devriez commencer par accomplir les tâches qui doivent l'être et qui constituent un intérêt vital pour la cause, et entreprendre les tâches moins importantes seulement après que les plus essentielles ont été accomplies. La ponctualité et l'énergie dans l'œuvre et la cause de Dieu sont de la plus haute importance. Les atermoiements sont pratiquement des défaites. Le temps est précieux et doit être employé au maximum. Les relations d'ici-bas et les intérêts personnels devraient toujours être laissés au second rang. On ne devrait jamais permettre à l'œuvre de Dieu de souffrir le moins du monde à cause de nos proches amitiés ou de nos relations les plus chères. Tendance héréditaire et acquise, chez Judas, la principale tendance héréditaire et acquise était la cupidité. Avec le temps, celle-ci devint une habitude qu'il intégra dans ses affaires. Les principes chrétiens de probité et de justice n'avaient pas place dans ses affaires. Ses habitudes en la matière se traduisirent par un esprit de mesquinerie et devinrent un redoutable piège. À ses yeux, le gain était un véritable principe religieux et toute vraie justice était subordonnée à cela. Bien que continuant à être apparemment un disciple du Christ et tout en vivant en sa présence même, il s'appropriait les moyens financiers qui appartenaient au trésor du Seigneur. Les habitudes déterminent l'avenir, souvenons-nous que les jeunes forment des habitudes qui, 9 fois sur 10, décideront de leur avenir. L'influence des relations qu'ils entretiennent ou qu'ils engagent et les principes qu'ils adoptent auront leurs répercussions durant toute la vie. Le mal a plus de force que le bien, les enfants sont particulièrement sensibles aux impressions, et ils retiennent pendant toute leur vie les leçons qu'ils apprennent dans leur jeune âge. Tout le savoir qu'ils peuvent accumuler n'effacera jamais les carences qui résultent d'un défaut de discipline dans l'enfance. Une seule négligence, souvent répétée, forme une habitude. Une seule mauvaise action fraye la voie à une autre, et sa répétition forme une habitude. On acquiert plus facilement de mauvaises habitudes que des bonnes, et on se libère plus difficilement des premières. Il faut beaucoup moins de temps et de peine pour abîmer la disposition d'un enfant qu'il n'en faut pour inculquer à son âme des principes et des habitudes de justice. C'est seulement en surveillant et en contrecarrant constamment le mal que l'on peut espérer corriger ses dispositions. Le Seigneur sera avec vous, maman, tandis que vous essaierez de cultiver de bonnes habitudes chez vos enfants. Mais il vous faut commencer tôt cette éducation, sinon, votre tâche future sera très difficile. Instruisez les préceptes sur préceptes, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Souvenez-vous que vos enfants appartiennent à Dieu et qu'ils doivent devenir ses fils et ses filles. Le Seigneur veut que les familles de la terre soient des modèles de la famille céleste. Des habitudes ancrées, les actes répétés accomplis dans un sens donné deviennent des habitudes. Au cours de l'existence, celles-ci peuvent être modifiées grâce à une éducation sévère, mais elles peuvent rarement être changées. Une fois qu'elles ont été formées, les habitudes s'impriment toujours plus profondément sur le caractère. Méthode à proscrire, ce n'est pas en blâmant les défauts des autres que nous parviendrons à les réformer. Une telle méthode fait souvent plus de mal que de bien. Dans sa conversation avec la femme samaritaine, au lieu de dénigrer le puits de Jacob, le Christ lui présenta quelque chose de meilleur. Il lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Il amena ainsi la conversation sur le trésor dont il voulait lui faire part, offrant à cette femme quelque chose de meilleur que ce qu'elle possédait, l'eau vive, la joie et l'espérance de l'Évangile. Les efforts pour changer viennent du désir de bien faire, il arrive, il est vrai, à l'homme d'être honteux de ses péchés et de délaisser certaines mauvaises habitudes avant d'être conscient de la puissance d'attraction de Jésus-Christ. Mais chaque tentative de réforme, basée sur un désir sincère de bien faire, est le résultat de cette puissance d'attraction. Une influence dont il ne se rend pas compte agit sur son âme, ranime sa conscience morale et amende sa conduite extérieure. Et à mesure que le Sauveur attire ses regards sur la croix et lui fait contempler celui que ses péchés ont percé, les commandements de Dieu parlent à sa conscience. Il se rend compte de la perversité de sa vie. Il comprend que le péché a jeté de profondes racines dans son cœur. Il commence à entrevoir la justice de Jésus-Christ, et il s'écrie, quelle n'est pas la gravité du péché, puisqu'il a fallu un tel prix pour la rédemption de ses victimes. Tout cet amour, toutes ces souffrances, toute cette humiliation était-il nécessaire pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle? Transformé par la contemplation, en contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes réellement transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous comptons sur trop peu, et nous recevons selon notre foi. Nous ne devons pas nous entêter dans nos voies, dans nos plans et dans nos idées, mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Les péchés ancrés doivent être vaincus et les mauvaises habitudes doivent être surmontées. Les mauvaises dispositions et les mauvais sentiments doivent être déracinés. Le caractère et les sentiments saints doivent être engendrés par l'Esprit de Dieu. Quand on met un frein aux mauvaises habitudes, elles opposent une forte résistance. Mais si l'on poursuit le combat avec énergie et persévérance, elles peuvent être vaincues. Le pouvoir de la grâce du Christ, nous ne pouvons recevoir dans leur plénitude les bienfaits qui découlent de l'obéissance que si nous acceptons la grâce du Christ. C'est cette dernière qui permet à l'homme d'obéir à la loi divine. C'est elle qui lui donne la force d'abandonner ses mauvaises habitudes et qui est seule capable de le remettre sur le bon chemin. Par la puissance du Christ, les pécheurs ont brisé les chaînes de leurs habitudes coupables. Ils ont renoncé à leur égoïsme. Le profane est devenu respectueux. L'ivrogne, tempérant. Le débauché, vertueux. Les âmes qui portaient l'empreinte de Satan ont été transformées à l'image divine. La seule sécurité de l'âme, songeons à la puissance ennoblissante des pensées pures. C'est là que réside la seule sécurité de l'âme. Un homme est tel que sont les pensées de son âme. On parvient à se maîtriser par l'exercice. Ce qui paraît tout d'abord difficile devient facile par la répétition constante. C'est ainsi que les bonnes pensées et les bonnes actions deviennent habituelles.